C'est la mort aux trousses, le podcast qui...
Bonsoir. Bienvenue à la mort aux trousses, jour 44 du confinement. Comment vas-tu, Marion?
Ça va. Et toi?
Super.
Voilà, nickel.
Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui?
Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me suis réveillée d'extrême mauvaise humeur parce que j'ai pas bien dormi du tout, genre pas vraiment, pas beaucoup dormi. C'était horrible. Donc, travailler, c'était genre no way, Jose. Ouais. Et donc, à la place, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé un peu le frigo et trié des aubergines qui commencent à dater pour faire du baba ganoush. En regardant le reportage sur Arte, le temps des ouvriers.
Ouais.
Voilà. Regardez-le, c'est fantastique. Voilà, en 4 épisodes, donc ça occupe 4 heures de confinement, c'est pas mal. Déjà. Et je vais pas regarder les 4, hein, mais j'en ai regardé un et demi, je crois. Et après, on a mangé. Qu'est-ce qu'on a mangé déjà? Ah oui, voilà, on a mangé, on s'en fout. On s'en branle. C'est absolument pas intéressant. Je t'ai mis la pâte au Scrabble.
Oui.
Ça, c'était ouf. Ouais. Voilà. Et après, cet après-midi, j'ai été faire les courses. Ça m'a pris des plombes parce que, voilà, il y avait beaucoup trop de monde. Et en plus, j'ai pas pu faire tout dans un magasin. J'ai dû aller dans un autre. Dans le deuxième magasin, il n'y avait pas le tahini pour le... Justement, baba pour ganouche. Faire le baba ganouche. Donc, j'étais extrêmement frustrée. Donc, il a fallu que j'aille. Finalement, en fait, sur le retour, je me suis dit, oh, bah, tant pis, il n'y en aura pas. Et en fait, je suis passée devant une épicerie africaine. Et c'est là où j'ai trouvé le Graal. Voilà.
Fantastique.
Voilà, voilà, donc baba ganouche. Et voilà. Et entre-temps, je suis passée devant notre amie que nous allons appeler incessamment sous peu, qui m'a proposé, comme je passais pas très loin, de me donner deux parts d'un gâteau qu'elle a fait.
Oui.
Voilà, donc il est sagement au frigo, il n'attend que nous.
Ouais.
Voilà.
Du coup, on peut l'appeler, hein.
Bah oui, en fait.
Franchement.
Parce que toi, t'as rien fait. Tout
ça. Bah si, quand même, j'ai travaillé.
Ah oui, voilà. Voilà.
Quand même, j'ai travaillé, puis ensuite j'ai monté et descendu 20 étages.
Ah, tu l'as fait?
Ah oui, oui.
Non, très bien.
Voilà. Et...
20 étages?
Eh ben oui, 4 fois 5.
Oh la vache!
Donc, donc 20 étages. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben oui, voilà, après je me suis douchée et après j'ai parler business avec Agathe, et voilà.
Très bien.
Et oui, bah du coup...
Allons chez notre ami mystère.
Allons chez notre ami mystère. on appelle Claire, qui est de l'autre côté de la Garonne. On l'appelle de suite.
Allô.
Allô. Salut.
Ça va?
Ça va et toi?
Ouais, super.
Déjà, merci, merci ouais. Infiniment pour le gâteau.
Oh, ben de rien, c'était avec plaisir.
J'espère qu'il a l'air succulent.
Ouais.
J'ai hâte qu'on puisse le manger en entier ensemble.
Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est ce gâteau?
Alors, déjà, les gâteaux, c'est ma nouvelle passion. Enfin non, c'était déjà une passion avant.
Oui.
Donc c'est un cake au chocolat et donc il y a 4 poires pochées donc entières à l'intérieur et du coup qui sont recouvertes par le cake au chocolat. Enfin c'est un peu ouais, je sais pas trop comment expliquer, et en fait à chaque part que tu coupes t'as un cercle de poires à l'intérieur pochées. Enfin, ouais.
Comment t'as poché la poire?
C'est très simple à pocher une poire. Alors, tu les épluches. Ouais. Tu les écutes, t'enlèves le cul un peu, et ensuite, en fait, tu fais bouillir de l'eau avec 250 grammes de sucre seulement.
Oui, c'est tout. Très peu, hein.
Voilà, un petit peu, et un peu de vanille. Là, j'avoue, j'en ai pas mis parce que j'avais un peu la flemme d'enlever une gousse de... Enfin, d'enlever... Enfin, on a que des gousses de vanille, en fait, qu'on a ramené de Guadeloupe.
Ouais.
J'avoue, j'avais la flemme d'enlever de la vanille. Okay. Je me suis dit que le gâteau serait déjà assez incroyable comme ça. Et c'est pas de mon fait. Enfin, en fait, rien que de lire les ingrédients et de voir les photos du gâteau, je me disais, ça va être incroyable. Et en fait, j'ai juste appliqué la recette. Et effectivement, c'était très, très bon. Putain. Et donc, voilà, tu fais cuire... En fait, tu plonges les poires pendant 15 minutes dans l'eau bouillante sucrée. Et après, tu les récupères. Et puis, elles sont... En fait, c'est comme si elles étaient très mûres. Donc, si elles avaient été très mûres, j'aurais pas eu besoin de les pocher. Mais voilà, je l'ai fait.
Putain,
je pourrais dire que j'ai poché une poire.
Maintenant, tu vas pocher tous les fruits que tu croises. Et après, les enrober de chocolat.
Bah, on va finir par pocher ses colocs, tu sais. Plus de fruits, les gars.
Je t'ai fait un bain de sucre. Viens là. Donc voilà, donc, c'était très très bon. Donc j'ai hâte que vous me disiez. Enfin voilà, en fait, ce qui est très très beau, c'est quand tu coupes des parts, c'est que tu as genre un petit cercle de poires dedans. Enfin, c'est assez joli.
Putain,
c'est bon. Donc voilà, tu es bon pour un chocolat. Bon, ouais, on n'a rien à prouver.
C'est tout simple et en même temps, fallait y penser.
Oui, c'est ça.
Exactement. Mais voilà, encore une fois, c'est pas moi. C'est, ça fait quelques temps que je bave devant un site d'une photographe culinaire, enfin qui fait des, enfin et qui est cuisinière aussi, qui fait des pâtisseries. Trop folle, quoi.
Ouais.
Et moi, j'essaie de faire un peu les mêmes photos avec le mode gourmet de mon appareil, mais j'arrive pas à faire la présentation un peu négligée. Enfin, tu sais, genre le torchon qui est à côté,
ouais.
Ça marche pas bien.
Oui, toi, ça fait vraiment négligé, quoi. Alors qu'elle, fait négligé mise en scène.
Ouais, ouais, tu vois, elle a des faux torchons sales, quoi. Alors que moi, ils sont vraiment sales. Mais non, mais ça s'apprend, je crois.
Je comprends tout à fait, ouais.
Ouais, voilà, tu essaies d'impressionner les gens, t'envoies des photos, bon, voilà.
Ça marche pas.
Parce que tu commences à avoir un petit palmarès, là, depuis le début du confinement, quand même, en termes de gâteaux, brioches, etc. On est bien, là?
Ouais, là, je me mets bien. Ouais, j'ai commencé à faire des pâtes aussi.
Ah oui, c'est de la
pris 20 kilos. J'ai fait, ouais, j'ai pris... je me déplace plus. Mais en fait, alors je pense vraiment que j'ai pris du poids, mais en vrai j'en ai un peu rien à foutre.
Oui, c'est pas grave, c'est pas la saison des jeans, hein. Ouais. On n'arrive pas dans la saison des jeans, t'as plus à te glisser dedans.
Ouais, oui, et puis de toute façon, on va pas aller à la plage cet été non plus,
non.
Donc voilà, mais ouais, il y a un pantalon que j'ai nickel, quoi. Ouais. Et voilà, je le remplis plutôt bien. Franchement, moi je suis contente, j'aime bien.
Bah ouais.
Il y a un truc qui témoigne de ce confinement, quoi.
Ouais. C'est bien.
C'est tu gardes les cicatrices du confinement. Les cicatrices étant.
J'ai souffert. Non, mais en gros, oui, voilà. J'aime bien cuisiner. Enfin, j'aimais bien de base, on le sait. Enfin, on aime tout cuisiner, mais j'avoue que là, ça me stimule vachement. Et puis, Top Chef, une fois par semaine, ça me stimule encore plus, quoi.
Et oui, ouais. Et tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Non, mais oui, on tente des trucs. C'est un peu la saison de l'audace.
C'est complètement la saison de l'audace.
Ouais.
Et d'ailleurs, ouais. Ouais, moi là, de vouloir faire des ravioles au confit, c'est
un peu top chef. C'est magnifique. Hein.
Ouais.
C'est magnifique.
Bah, ouais. Je sais pas ce que ça va donner, mais écoute, je vais magnifique. Donner tout ce que j'ai, en tout cas.
Ouais. Franchement, ça peut être moche, ce sera forcément bon.
C'est ça, en fait.
Oui, oui, je prends pas beaucoup de risques, je pense, non plus.
La beauté intérieure.
Ouais, voilà. Donc, ouais, c'est bien le confinement pour ça, vraiment, genre, faire la cuisine.
Ouais, prendre le temps de cuisiner.
Et bouffer, en fait, surtout. Moi, c'est pas forcément. Bon, j'aime faire la cuisine. Mais avant, j'aimais surtout faire la cuisine et après manger ce que j'ai fait. C'est pas ma passion. Enfin, j'adore le faire, mais voilà. Mais là, vraiment, bouffer.
Ben oui, et le pire, c'est que, en fait, des fois, je me réveille en me disant, je vais cuisiner ça pour un midi. Enfin, vraiment, des fois, c'est ma raison de me lever.
Ah oui, moi, j'y pense à 24, hein, c'est le midi, je pense à ce que je vais manger le soir, et ouais.
Exactement, ouais. Non, mais c'est... Puis, en fait, je suis hyper lente, je pourrais vraiment pas faire Top Chef, parce que du coup, je prends grave le temps de faire des trucs.
Mais j'adore.
Parce que je me dis, bah, au moins, ça m'occupe, quoi.
Ouais, grave.
T'écoutes une émission ou t'écoutes de la musique confinement et puis
ça j'avoue c'était déjà avant le confinement, mais j'avoue que depuis le début de la thèse je prenais beaucoup moins le temps de vraiment genre passer des matinées ou des après-midi entières à cuisiner, chose que je faisais genre avant par exemple, c'était vraiment tu sais genre t'allais au marché, tu prenais plein de trucs frais, etc. Et là, vraiment, mais le bonheur de, voilà, de, d'écouter un podcast ou de regarder un film ou un documentaire et de passer 2 heures, mais pas pour faire des trucs de ouf, hein, juste prendre le temps de cuisiner et que ça mijote bien et machin et trucs. Oh, mais c'est un bonheur en vrai. Hein.
Moi, je prends tout le temps de cuisiner parce que c'est un truc qui me... Ouais,
c'est trop bien.
Qui me détend de manière générale. Donc, je mets toujours des plombes. Genre, j'aime bien m'asseoir et genre couper des légumes.
Les soupes. Vrai, j'adore préparer des soupes qui durent des plombes.
Qui
tu
est
vois.
Chiante, tu sais. Moi, j'adore m'asseoir et couper des légumes. C'est vraiment ma passion. Le hobby de merde. Et ouais, mais regarde, maintenant tout le monde le fait.
C'est clair, putain, on prend le temps maintenant.
Mais c'est trop bien, quoi. Ouais, c'est trop bien. C'est un plaisir. Et ensuite, de rester assis et de manger. Voilà.
Oui, tu bouges pas.
Tu bouges pas, quoi. T'as pas besoin de bouger. Non, c'est vraiment... Est-ce que tu préférerais perdre le toucher ou perdre le goût?
Perdre le toucher. En fait, je sais même pas pourquoi je réfléchis.
Mais parce que, attention, non, pas, hein. Perdre le toucher...
C'est chaud, hein.
Enfin, ça veut dire que t'as plus de sensations, genre... Nulle
mais
part,
au bout des doigts. Ah, nulle part. En vrai, moi, y a plein de trucs à toucher qui me dégoûtent un peu.
Ouais.
Genre, notamment, genre, me toucher le nombril ou des trucs comme ça.
Oui, c'est vrai.
Genre, vraiment, et le goût, en fait, vraiment, quand on a appris que c'était un des symptômes du Covid, moi, c'est le truc qui m'a le plus angoissé, plus que la fièvre, en fait.
La panique. Genre, mais oui, c'est clair.
Le goût, mais c'est atroce. Enfin, c'est...
Ouais, tu perds tout le bonheur de manger, de... Enfin, ouais.
Oui, bah, tu te nourris parce qu'il faut... Il faut se nourrir, quoi, mais t'as plus aucun plaisir. Alors que le toucher, bon, c'est peut-être bizarre, tu vois, mais non. Et puis en plus, moi, je crains grave les chatouilles et tout. Enfin, vraiment, il y a un truc, genre, tu sais, on peut me frôler, ça va me chatouiller. Voilà.
Ouais. Ouais. Est-ce que ce qui te dégoûte, c'est toucher ton nombril ou toucher le nombril des autres?
Les deux, non?
Alors, les deux, et voir les gens se toucher le nombril aussi, ça m'a dégoûté. Mais en fait, c'est peut-être ça qui me dégoûte le plus.
De voir les gens se toucher le nombril?
Ouais.
Mais tu vois beaucoup les gens se toucher le nombril, toi?
Bah, j'ai déjà vu ça dans ma vie.
Mais quand elle dit... Moi, je pense que quand elle dit aux gens que ça la dégoûte de se toucher le nombril, les gens se touchent le nombril.
Je pense que... Bah, pas forcément, parce que je me suis déjà retrouvée dans une situation à devoir expliquer, genre, fais plus ça devant moi, ça me dégoûte. Mais tu sais, genre, des gens qui font « Ah, j'ai une poussière dans le nombril !» Tu sais, genre, en été, t'es en maillot...
Ah, la plage, oui, t'as du sable dans le nombril,
ouais, c'est chiant. Ouais, t'as du sable dans le nombril, mais c'est un trauma. Ça me dégoûte.
Ah, ouais. Ah oui, c'est compliqué.
Et qu'est-ce qui te dégoûte
d'être... Je comprends pas, ouais.
Mais en fait, je j'aime pas la sensation, déjà, parce que moi, je me suis déjà, sans faire exprès, touché le nombril. Enfin, t'es genre, t'as ton doigt qui dérape et tout.
T'es là en train de te caresser le ventre et puis...
Non, mais en fait, je flamme et genre, j'ai déjà mon doigt qui s'est pris dans mon nombril en me touchant le ventre, enfin, tu sais, genre, en lavant le ventre, quoi. Okay. Bon. Et c'est vraiment une... Je sais pas comment expliquer, mais je pense que les gens qui, comme moi, aiment pas ça, voient très bien de quoi je parle.
Ouais.
Et du coup, quand je vois les gens le faire qui se le font, bah, je crois que je visualise, enfin, j'ai la sensation de cette gêne.
Je pense que... Alors, moi, je comprends un petit peu. Alors, ça me dégoûte pas de me toucher le nombril, mais par contre, ça me dégoûte qu'on me touche le nombril. Enfin, un copain à moi, il s'amusait à me toucher le nombril.
Ah, mais ben non.
Et c'était horrible. J'étais là, mais...
Ça fait pas un peu mal, en plus?
Si, oui, j'étais là, mais c'est super désagréable, en fait.
Ouais, truc. Mais voilà.
Et en fait, parce que t'as l'impression de toucher directement le tube dedans, tu sais. Enfin,
je pense qu'il y a un truc un peu comme ça, ouais.
Et du coup,
j'aime pas trop.
Mais moi, j'avoue, ça m'est déjà arrivé d'essayer de genre me faire sortir le nombril.
Ah, mais quoi?
Ouais. Mais pourquoi?
Mais pour voir, parce que tu vois, il y a des gens qui l'ont sorti, ressorti, ce que je trouve dégueulasse. Hein,
moi, j'avais ça quand j'étais petite.
Mais ça,
il sortait.
Ben ouais, mais on dirait un orteil. On dirait un orteil atrophié sur un moignon, je trouve.
Non, voilà. J'avoue, j'avais ça et ma grosse crainte, c'était de l'accrocher à quelque chose.
T'aurais pu faire un piercing.
Tu vois, à Aquabéarn, les toboggans, je voulais pas descendre les toboggans sur le vent parce que j'avais trop peur qu'ils s'accrochent. Voilà. Et je pense que ça part de là, en fait.
Ah, ben peut-être, oui, c'est...
Ouais. Et puis peut-être, et je pense qu'un peu en grossissant, il a fini par rentrer. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Enfin, ça a été ma théorie.
Ah, ben pardon, oui, en fait, il y a tout le gras qui s'est foutu autour. Ça a fait une pellicule.
Attends, je le regarde. Putain, ça me dégoûte. Mais en plus, c'était genre, c'est sale, quoi. Enfin, en plus de ça, t'as vu qu'on le nettoie pas.
Ben ouais, oui, ben toi, si t'y fous pas les doigts dedans, c'est sûr que...
Non, mais j'avoue que moi, c'est vraiment le truc, genre, je pense jamais à nettoyer.
Moi, si, je le nettoie quand même.
Mais non, parce que moi, j'aime pas trop toucher, en fait. Moi, je comprends un peu Claire, c'est un peu désagréable et ça fait presque mal. Je sais pas, ça j'aime pas trop toucher non plus. Hein.
Ouais, mais t'y fous du savon et après, tu fais pfff, comme ça dedans.
Tu fais ça, toi?
Bah, je sais pas, genre, quand je me lave, forcément...
Alors, tu te laves pas les pieds et tu te laves le nombril. T'es sérieuse?
Je me lave les pieds, il se lave tout seul dans la baignoire.
Non. N'importe quoi.
Merci Claire. Mais non, alors, je me lave le dessus des pieds. C'est vrai que je me lave pas le dessus des pieds parce qu'il frotte dans l'eau, dans le savon, dans la baignoire.
Mais il se frotte pas du tout. Personne se frotte les pieds écoutez, tout seul.
Écoutez, ils sont pas crado. Donc,
c'est ça qui
ouais. Donc, ouais, bah, c'est pas moi qui ai un nombril plein de merde.
Mais moi, je pense que pour le coup, avec les écoulements de l'eau, il y en a... Enfin, tu vois, genre, il y a de l'eau qui passe quand même, tu vois.
Ouais.
Mais,
parce fait, que si, on part, si on part de là, il y a d'autres endroits aussi qui vont se nettoyer tout seuls. Hein. Je veux pas... Voilà, mais c'est pas faux.
Le reste, il n'y a aucun problème. Mais, Non, mais en fait, je crois que ça me dérange un peu qu'on parle de ça. Je sais pas pourquoi, j'ai un espèce de truc...
Mais c'est toi qui t'es lancée toute seule, en plus.
Oui,
en
plus, c'est ça
qui oui, en fait, oui, on arrête. Hein. On arrête. C'est bon.
Non, mais c'est original, quand
mais
même.
Du coup,
non,
je sais pas. Oui, donc, en fait, la base du truc, c'était perdre le toucher ou le
goût. Ah oui,
le
ah, oui c'est ça, je voudrais être ça, quand même.
Et ouais. Donc, je préfère perdre le toucher. C'était, okay. Voilà, j'ai essayé de développer, je suis allée beaucoup trop loin.
C'est mal fini.
J'en ai trop dit.
T'en as bavé. Marion, toi, toucher ou goût?
Ouais, d'ailleurs.
Moi, le goût, je crois.
Tu préfères perdre le goût?
Ouais.
Incroyable.
Nice. Parce qu'en fait, le toucher, tu te rends pas compte, mais toutes nos sensations, n'importe quoi, en fait, quand tu fais un câlin à quelqu'un, quand tu, je sais pas, ouais, quand tu touches ouais, des trucs et tout.
C'est un argument pour Claire, elle aime pas faire des câlins.
Ouais, mais en fait, on se rend pas compte, mais c'est aussi, tu sais, genre, je sais plus où j'avais vu ça, c'est, tu sais, genre, les enfants, par exemple, qui ont pas de contact physique, étant tout petit, il développe en fait une forme d'autisme, etc., etc. Et c'est en fait c'est ouais. Le manque de toucher avec d'autres interactions vraiment physiques avec d'autres êtres humains. En fait, ça te, enfin, tu peux en mourir quoi.
Oui, mais tu les interactions physiques, tu les as, mais c'est juste que tu les, enfin, tu vois, les enfants qui ont pas de contact, c'est vraiment ils ont pas de contact ouais. Physique. Là, le contact physique, tu l'as, c'est juste que t'as pas la sensation, mais tu mais le ouais. Sais que tu l'as.
Mais ouais, mais non, c'est pas pareil, je pense. Moi, enfin, en plus, moi, je suis hyper tactile. Et le, tu sais, genre par exemple, je sais pas, tu fais un câlin à ton amoureux ou même genre quand t'es enfant à tes parents, non, etc.
C'est très bien pourquoi tu veux.
Non, mais tu vois ce que ouais. Je veux dire. Non, mais en fait, ouais. Je pense qu'on se rend pas compte de la dimension et de l'importance du toucher,
ouais.
des sensations que ça fait sur ton corps. Quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui t'embrasse dans le cou ou par exemple juste de serrer la main, tu vois. Enfin, c'est ce genre de
ouais, serrer la main, je m'en passe. Mais oui, oui.
Non, mais tu vois ce que je veux ouais. Dire. Non, en fait, on se rend pas compte.
La mémoire des gens.
Non, mais pas la même moi des gens, mais dans les sensations, des trucs où t'es à l'aise et où ça te fait du bien, mais vous êtes chelou oui. Avec ça aussi, mais...
Non, on n'est pas voilà. Chelou, mais...
Si, vous êtes bizarre.
Mais non,
voilà.
C'est pas parce qu'on n'est pas comme toi.
Et du coup, bon, bref. Mais du coup, je crois qu'on se rend pas compte de l'importance du toucher, en fait.
Oui.
Moi, j'abandonne le toucher pour le goût.
Non, moi non.
Moi aussi, mais alors... Tu sais que ça peut être dangereux pour ta vie aussi de ne pas avoir de goût parce que ça oui. Veut quand même dire aussi que tu n'as pas d'odorat.
Tu te retrouves à bouffer de la coriandre, s'il te plaît.
Et en fait, t'imagines genre ouais. du gaz chez toi, enfin un truc de gaz qui s'ouvre, tu t'en rends pas compte du coup.
Oui, mais alors est-ce que forcément quand
genre,
tu perds le
goût... Non,
mais on se posait la question la dernière fois. Est-ce que quand tu perds le goût, tu perds forcément l'odorat?
Mais je pense que les deux sont un peu liés. Alors tu perds pas complètement, mais les deux sont liés. Donc,
En tout cas, quand tu n'as plus d'odorat, tu n'as plus de goût.
Oui,
ça c'est mais sûr. Alors, est-ce que quand t'as plus de goût, t'as plus d'odorat, c'était... Oui.
J'en sais rien.
Je pense pas. Oui. Je pense que tu... Je pense que... En fait, même quand t'as plus d'odorat, je pense que tu gardes un petit peu de goût, mais c'est très très atténué. Et donc dans l'autre sens, ça doit être la même chose.
Mais effectivement, ouais, c'est dangereux
quand,
après.
Quand c'est enrhumé, quoi. Quand ouais. c'est enrhumé, pardon.
Ouais. ouais.
Genre, c'est désagréable en plus.
Ouais. Donc, ouais. C'est clair.
Non, mais ce serait horrible pour moi de perdre le goût. Hein. D'accord. Moi, je suis hyper gourmande en plus et j'adore bouffer. Mais en vrai, à choisir, perdre le toucher, je pense qu'on se rend pas compte du. Enfin, ouais. vraiment, même
on
sur le.
On va faire passer pour des autistes, c'est clair.
Bah, non, mais c'est pas ça, hein, mais je comprends. Enfin, franchement, mais en fait, je pense qu'on se rend pas compte de tout non, ce que mais... ça implique, en fait, de perdre le toucher complètement. Tu vois ?
Non, mais c'est tout l'horreur de ces jeux, tu préfères, en fait. C'est qu'il n'y a pas une bonne réponse, en fait.
Mais t'imagines, genre, perdre le goût, tu sais. Enfin, tu te rends pas compte quand tu plies la gueule ?
Bah, tu fais gaffe, tu te.
Oui,
tu,
mais tu te rends pas compte que les autres, tu de la gueule non plus. Donc, ça, c'est pas mal, en fait. Hein.
Oui, c'est pas mal.
Tu prends des chewing-gums.
Ouais, je sais pas. Bon, c'est un dilemme. Hein,
Mais je pense que dans les deux cas, c'est très dangereux.
De toute façon. Et perdre le toucher ou la vue ?
Ah, oh, bah, le toucher aussi.
Mais quelle horreur.
Ah, ouais, moi, je préfère perdre le toucher aussi.
Putain, c'est horrible.
La vue, ce
serait horrible.
T'as plein de choses que tu peux plus voir, tu sais.
Bah, pas tout.
Enfin, tu peux plus.
Bah oui, Claire, c'est le problème.
Oui, mais genre.
C'est tellement profond ce que tu dis, Claire.
Non, mais genre, il y a certains trucs, tu t'en fous de plus les voir, mais il y a aussi des choses, genre, trop belles que tu pourras plus jamais voir, et je trouve que c'est.
Ouais, ça, c'est horrible.
Est-ce qu'on parle des gens qui puent de la gueule que tu veux plus voir et donc t'es contente que tu les vois aussi ?
Ben non, parce que là, le problème, c'est que tu les sens et en plus, comme tes autres sens sont décuplés, je peux t'assurer que t'es pas
quel enfer.
C'est clair.
Oh, quel enfer. Alors que le toucher, ça impacte pas trop sur les autres trucs, tu vois.
Mais t'en sais rien.
Enfin, est-ce qu'on peut dire que tous tes autres sens sont décuplés si tu perds le toucher ?
Ouais, pas sûr. Je sais pas.
Non, je
ne sais pas.
Alors que, genre, il y a une forme de compensation quand tu perds la vue ou...
Ouais.
En fait, c'est surtout quand tu perds la vue, non que... ouais, ouais.
Quand tu perds la vue, et peut-être aussi l'ouïe, je sais pas.
Quand on perd l'ouïe.
Quand on perd l'ouïe, mais tu sais, genre, des fois, on sait plus où il est.
Ouais, il est confiné chez lui, là.
Ouais,
il est pas perdu, hein, ne t'inquiète pas.
Putain, malheureusement, on n'a pas encore réussi à le perdre.
Non, 2020 n'est pas fini.
Nous ne sommes qu'en avril, on va croiser les doigts.
Fin avril. On est
presque.
Putain, fin avril, quoi. Incroyable.
C'est It's gonna be May.
Ouais.
Tu n'auras pas la même saveur cette année de faire cette blague Justin Timberlake.
Non, c'est vrai.
Je suis un peu deg.
It's gonna be May. Voilà.
Ouais, ben
on
voilà.
On peut finir le débat là, c'est bon ?
Oui. Mais j'allais
encore d'autres théories.
J'allais enchaîner. Qu'es-tu de... Alors, parce que la dernière fois qu'on t'a officiellement parlé, Claire, c'était tu étais en Guadeloupe et tu t'apprêtais à faire un périple en fait, à traverser l'Atlantique et la France en plein confinement. Alors,
quid ?
Hourra, tu es vivante et tu es bien arrivée. Ouais. C'était comment ?
C'était comment ? Alors, donc moi, je suis rentrée avec ma coloc Manon.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, nous sommes finalement allés à l'aéroport. Rien que le fait d'aller à l'aéroport, c'était un périple parce que... on a volé les masques dans le Airbnb dans lequel on était.
Super.
Et puis il a fallu qu'on vide le frigo aussi, du coup il nous restait la moitié d'un cubi de rosé.
Oh putain.
Et nous sommes arrivés extrêmement tôt à l'aéroport avec Manon et donc en fait on s'est installé dans l'herbe devant le terminal.
Oh là là.
Comme si on allait en festoc. Et donc on s'est bu, on s'est fini le cubi de rosé.
Oh putain.
Et puis ensuite on s'est dit il faudrait peut-être qu'on aille déposer nos bagages. Donc on a mis nos masques. Erreur de boire du rosé et mettre un masque après,
ouais.
Parce que clairement tu pues de la gueule, quoi. Enfin, déjà le rosé ça aide pas, c'est
ouais.
Voilà, bah, l'alcool pour la laine c'est pas
ouf.
Peut-être le jet 27 franchement,
non mais même pas
mais même donc le rosé, très mauvaise idée si tu mets un masque après. Donc en fait ce qui a fait que on s'est rendu compte qu'on avait 1h30 d'attente tellement il y avait de monde qui cherchaient à rentrer et à déposer leurs valises. Donc on était saoul, 1h30 d'attente dans un endroit assez petit et très très anxiogène.
Ouais. Ouais, voilà. Bah, j'imagine l'ambiance, elle devait pas être.
C'était incroyable. Horrible. Ouais. Et on peut clairement dire que les distances de sécurité étaient pas. Étaient pas respectées. Les gens hurlaient. Enfin, ouais, ça faisait vraiment fin du monde.
Putain.
On a fini par réussir à donner nos valises. Il y a quelqu'un qui s'est évanoui, enfin bon, t'es genre, les gens, ils, non mais, il y a une femme qui m'a fait, genre, elle y croyait pas, tu sais, j'étais là, mais sérieusement, enfin, il s'est évanoui, il était en train de convulser, c'était trop bizarre, quoi, il était hyper mal, mais bon, évidemment, il est passé devant tout le monde, donc il y a eu des suspicions, tu vois.
Ouais, mais c'est une blague.
C'était trop drôle. Enfin, là, avec du recul, ça m'a amusée. Mais sur le moment, j'y croyais pas, quoi.
Ouais.
Enfin, bon, ouais. Bref. Donc, on a pris l'avion. Bon, ça s'est bien passé. À part que j'avais une gamine devant moi. Mais je crois que ça, je vous avais pas raconté. J'avais une gamine devant moi qui avait à peu près 3-4 ans et qui s'est amusée à toucher tout. Enfin, en fait, elle n'arrêtait pas de se retourner et de toucher tout ce que je faisais, de tout ce que je touchais.
Quoi ?
Et
Mimi crève.
Ouais, elle touchait mon écran avec ses microbes. Je la regardais hyper mal. Enfin, j'essayais de la regarder très très mal et sa mère ne faisait rien. Enfin, sa mère était hyper bizarre. Et genre, elle a bavé sur mon écran. Enfin, c'était infernal.
Quoi ?
Et que du coup, j'ai pas voulu regarder de film et toucher mon écran. Enfin, surtout qu'il marchait pas en plus. Et donc, ça me rassurait pas de toucher l'écran avec une gamine qui avait tout touché, quoi.
Putain, mais dégueulasse.
Bon. Mais attends, mais elle avait quel âge pour baver sur un 4 ans ?
Je sais pas, 3-4 ans, ouais, je sais pas. Bon, après, tu sais, il y a des gens grands qui bavent, hein.
C'est vrai. Moi-même, ouais. Des fois, ça m'arrive de baver.
Ouais,
moi, quand je commence à m'endormir, je sais que je bave.
Ça m'arrive aussi, mais tu sais, quand tu t'endors un peu, genre, sur ta main, comme ça.
Ah ouais.
Oui.
Ou sur l'épaule.
Tu sens la fraîcheur de ta salive.
Ça me dégoûte. Alors moi, ça, plus que le nombril, l'odeur de la bave, ça me donne envie de gerber.
Moi, la bave. C'est dégueulasse, non, mais l'odeur... Mais quand t'éternues, c'est l'odeur de l'éternuement. Exactement ça.
La bave tout court, ça me dégoûte.
Ça me dégoûte. Bon, bref, pardon.
Je trouve que l'odeur de la bave, c'est vraiment l'odeur de l'éternuement. C'est...
L'odeur de l'éternuement. Mais j'ai jamais senti
un éternuement. Alors, tes éternuements ont une odeur. C'est incroyable, ça.
Vous avez jamais senti une odeur d'éternuement ?
Mais genre, quand toi, t'éternues, il y a une odeur ?
Ouais, mais tu sais, genre, il y a que toi qui peux le sentir, tu sais, quand t'es... Enfin, les autres, le sentent pas.
Mais non, moi, j'ai jamais ça. Alors, moi, j'adore éternuer. C'est vraiment un truc, j'adore ça. Non, mais c'est vrai, c'est trop bien éternuer.
C'est trop bien éternuer. Bon, non.
Il y a un truc assez libérateur, quand même.
Moi, j'adore ça, je me sens trop bien. Je suis là, genre... C'est trop bien.
Ouais. Admettons.
Bon, mais tu feras attention, mais il y a une odeur.
Ok, mais comment tu fais pour sentir ton éternuement alors que, genre, vraiment...
T'es en train, justement,
t'es en train d'éternuer et t'es genre... Et après, tu respires
après,
très vite.
C'est si, mais bah, bon, c'est dégueulasse, mais est-ce que tu t'es déjà éternué genre sur la peau ?
Bah oui.
Dans, voilà, sur ton. Bah, à l'intérieur
sur
de ton coude.
Main,
et bah,
ouais, ouais.
Bah, et oui. Bah, tu sentiras l'intérieur de ton coude après avoir éternué. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, on sent rien.
Bah, se sentir le coude.
Mais qu'est-ce que tu fais à te sentir le coude ?
Mais
n'importe
quoi, mais arrête de trenifler partout aussi.
Bon, bref, c'est ignoble.
Oui.
Donc il y avait cette gamine qui m'avait sur mon écran.
Donc voilà. C'est nickel. Ouais.
Et donc on a fini par arriver à Paris et de là on a loué une voiture. Et on devait avoir une Fiat 500 et on était hyper fiers, on faisait trop chic et tout.
On a traversé la France en Fiat 500, très classe.
Ouais, et en fait, il y a la nana de la location de voiture qui me dit « Ah, ben on peut vous upgrader, vous pouvez avoir une Opel, je sais pas quoi. » Je fais « Non, c'est pas nécessaire. » Enfin, parce que j'avais vraiment envie d'avoir une Fiat 500, je sais pas pourquoi. Alors que je sais très bien que c'est pas forcément très agréable une Fiat 500
pour traverser la France. Mais pour traverser la France, c'est pas ouf, quoi.
Ouais, c'est pas ouf, ouais.
Voilà.
C'est une citadine.
Voilà. Et en gros, elle m'a dit « Non, mais quand même, vous allez jusqu'à Toulouse. » J'ai dit « Mais... » Et elle me dit « Bon, c'est un peu plus cher. » Et je dis « Bah, c'était déjà pas trop dans notre budget de louer une voiture, donc non. » Elle m'a dit « Bon, allez, je vous le fais pas. Je vous fais pas de rajout de prix, quoi. » Et bon, du coup, je vais pas trop insister parce que...
non, j'en veux la voiture pourrie.
C'est ça. Donc, on a traversé la France dans une super voiture. Il y avait personne sur les routes, juste des camions.
Ouais.
Et puis voilà, et puis on est arrivé le soir. En fait, on est arrivé à Paris vers midi, on est arrivé à 21h à Toulouse.
Putain, vous avez tracé. Ouais, vous avez tracé.
En fait, il n'y avait personne, mais après, on a fait une bonne pause.
Ils ont fait du 300 sur l'autoroute.
Mais ouais, surtout que bon, Manon et moi, on n'arrêtait pas de se dire, on n'est pas des grandes conductrices quand même, et puis on vient de se faire 12 heures d'avion, donc on va peut-être y aller mollo.
Ouais.
Mais comme il y avait, comme voilà, on n'a pas eu de blocage. Ni quoi que ce soit, on s'est bien posé, j'ai pas arrêté de boire du café.
Ouais.
Et voilà, puis on est arrivé, et puis depuis, bah, je suis confinée à Toulouse. Voilà.
Et pour la story. Trop classe. Trop bien. Et, ouais. Et vous avez pas eu de problème, genre, vous êtes pas fait arrêter sur l'autoroute ou.
Non, rien du tout.
Ah, bah super!
J'ai pas croisé, enfin même, même sur les airs ou tu sais en sortie de péage, on a croisé aucun flic. Ouais, alors, parce j'ai l'impression d'en voir tout le temps quand je sors du péage, mais là il y en avait pas.
Ouais, c'était peut-être parce que c'était le début du confinement.
Ouais, peut-être, ouais.
Ouais, et puis que là en fait ils nous laissaient encore rentrer chez nous, quoi, donc.
Ouais, il y avait ça aussi, ouais, je pense.
Ouais, moi je pense que maintenant c'est pas possible.
Ouais. Bah, il faudrait se le retenter. Aller faire un petit tour à Paris.
J'ai bien envie, ouais. Je pense que ça va être les premiers à être déconfinés à Paris, donc vraiment c'est...
Ah, les bâtards.
Je crois pas.
On va rester là à attendre d'être déconfinés, et puis le temps qu'on attend d'être déconfinés, ben, en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont déconfiné trop tôt, et donc tout le monde va être reconfiné, et nous, on n'aura même pas été déconfinés. Tu vas voir. Comme ça que ça se fait. On verra.
Non, bah on verra bien.
Ouais,
on D'ailleurs, verra. À ce propos, en parlant de déconfinement,
oui.
Hier, on discutait donc avec mes colocs de la façon dont le déconfinement allait être géré. Et donc, on parlait du fait qu'Edouard Philippe allait parler à l'Assemblée cet après-midi.
Ouais.
Et on s'est dit, ça serait rigolo entre nous qu'on fasse des pronostics sur le déconfinement. Et en fait, on allait un peu plus loin en se disant ça serait rigolo que tout le monde se mette à écrire sur le déconfinement. Genre comment il imagine le déconfinement.
Ouais.
Enfin, ce dont je vous ai parlé ce matin.
Mmh.
Et donc voilà. Donc c'est un peu le projet qui nous excite depuis ce matin, à se dire genre on a trop envie de récolter plein de récits un peu en mode journal intime de chaque personne où chacun délire un peu sur
moi je pense que ça va se passer comme ça.
Ouais, voilà.
Okay.
Mais c'est assez ouvert en fait, on s'est dit que les gens qui étaient pas forcément à l'aise avec l'écriture, ils pouvaient aussi dessiner ou faire des collages ou faire des trucs audio.
Trop bien, c'est une super idée. Voilà. Bah du écoute coup,
en fait, c'est surtout qu'on a très très envie de lire plein de gens en fait et ouais. Voilà.
Que nos auditeurs et nos auditrices
ouais.
se lancent dans le truc et
grave.
Et nous envoient leurs propositions qu'on te fera
tout qu'on à
te
fait.
Fera passer et, si jamais.
Il faut que ce soit écrit à la main et ouais. photographié pour qu'on garde l'idée un peu de enfin dans le cas où c'est écrit pour garder l'idée du journal intime.
Ok.
Et, voilà. En fait, on ne sait pas encore la forme que ça va prendre. Pour l'instant, on s'est dit qu'on allait faire juste un blog. Et puis après, on verra si on ne fait pas un truc papier ou quoi. Enfin, ouais. Voilà.
Mais on est d'accord que ça peut être complètement un scénar de science-fiction.
Ah oui, enfin moi le mien c'est une dystopie totale.
Magnifique, trop bien.
Voilà, c'est Manon, elle visualise, enfin elle m'en a un peu parlé, elle fait, en fait elle imagine la fête d'après le confinement.
Oh, putain. Ouais.
Sur l'île du Ramier là, donc à côté de la maison. Là Samuel il fait une sorte de journal de bord qui commence à partir du 11 mai.
Trop bien.
Donc, ils racontent un peu comment ça se passe. Voilà, mais eux, ils sont sur des trucs assez positifs, alors que moi, c'est un peu... c'est un peu dystopique, quoi. C'est drama.
Génial.
Trop bien.
Mais du coup, voilà, c'est libre. Ça peut être très long. Enfin, en fait, on se disait quelques lignes pour pas que les gens se sentent obligés d'écrire un roman non plus.
Ouais.
Mais après, si ça inspire... En fait, là, on a commencé par écrire quelques lignes et depuis cet après-midi, j'arrête pas d'étoffer mon truc et ça commence à être grand comme truc, du coup...
Non, mais ça, voilà. c'est une super idée. Faudrait que... Enfin, ce sera trop bien de lire les différentes propositions de tout le monde.
Grave.
Après.
Voilà.
Très bonne idée.
Trop bien.
Et bon, alors, on t'a fait travailler aussi un peu.
Ah oui.
Pour cette nouvelle saison du podcast.
Et parce que tu n'es pas confinée n'importe où. Dans Toulouse, tu es quand même genre en plein centre-ville et au bord de la Garonne.
Oui.
Oui, mais...
du coup, elle a pas fait quelque chose.
Ah, t'as pas fait quelque chose.
Non. Mais alors, je peux expliquer pourquoi Marion dit ça.
Vas-y.
C'est que oui, donc je devais. Enfin, l'exercice c'était de raconter un événement de sa vie ou un fait qui nous a marqué. Enfin, si parce qu'on y a participé personnellement ou juste parce que c'est un fait qu'on a trouvé fascinant.
Mm-hmm.
Et donc moi, au début, comme j'habite Ketounis, qui était en fait une île avant... En fait, c'est plus une île depuis pas très longtemps, depuis 1953. Mmh. Ouais. Bon, du coup, parce que j'ai commencé à faire des recherches hein, sur cette île quand même. Et en fait, mais c'est la Marie-Claire, la petite vieille du premier là, de mon immeuble, qui m'avait dit que c'était un peu une île de brigands.
Ok.
J'avais trouvé ça assez fascinant et je me disais, c'est fou. Et en fait, mon immeuble, c'était un peu un truc de trafiquant, enfin, un immeuble de trafiquant de tissus. Mais le truc, c'est que je ne pouvais pas aller voir Marie-Claire pour lui demander des infos, puisqu'elle est un peu âgée.
Ouais.
Et puis, j'ai commencé à lire des trucs, mais je ne trouvais pas les infos. Tu vois, je tapais île de Tunis, brigand, et je trouvais pas, ça m'allait pas.
Ouais.
J'avais pas, j'avais appelé île de Tunis fait divers, et comme je raconte à Marion tout à l'heure, j'avais que des gens qui se tuaient du pont. Enfin, bon, c'était pas.
Ouais, c'était un peu sordide.
Et ensuite, en fait, je sais pas trop comment j'ai repensé à ça, et en fait, je me suis dit, c'est trop drôle. Enfin, c'est pas si drôle que ça, mais en fait, il y a eu une épidémie de danse. En 1518, qui a démarré en Alsace, à Strasbourg.
Ok.
Donc, c'est une épidémie qui a démarré en Alsace également, donc au XVIe siècle. Et voilà, et en fait, moi, j'ai entendu parler de cette épidémie de danse là, en novembre dernier, parce qu'il y a une compagnie de danse toulousaine qui, en fait, a relaté... a créé une chorégraphie sur le thème de cette épidémie de danse qui a eu lieu.
Ouais.
Voilà. Et du coup, en fait, en faisant plein de recherches, j'étais complètement excitée. Du coup, c'est pour ça que je vous ai demandé de vous appeler plus tard. Parce qu'en fait, j'avais l'impression de découvrir un truc. En fait, c'était juste sur Internet. Hein. C'est comme quand tu fais des recherches sur Wikipédia.
Ouais, mais bon.
J'ai l'impression de faire des recherches incroyables et de trouver des trucs. En fait.
D'être un grand chercheur, genre Einstein, avoir découvert un truc incroyable.
Et c'était... Enfin, moi, ça m'a fascinée. Après, peut-être que des gens vont trouver ça chiant, mais moi, j'ai trouvé ça incroyable, quoi.
Bah, vas-y, hein.
Voilà. Donc, en fait, c'est une épidémie de danse qui a eu lieu à Strasbourg en juillet 1518.
Ouais.
Et en fait, à cette époque-là, entre le 13e et le 18e siècle, on a recensé genre une vingtaine de cas d'épidémie de danse entre l'Allemagne, la France et la Suisse.
C'est n'importe quoi.
Voilà. Et donc, il y a eu une première épidémie au 5e siècle.
Ouais.
Et genre, à l'époque, on avait attribué cette épidémie à l'influence du diable.
Ouais, genre les gens étaient possédés et donc du coup, ils se sont lancés dans une espèce de fièvre dansante.
Dansante, exactement.
Okay.
Et donc, à partir de cette époque-là, après cette première épidémie, il y a un couvent qui a été créé, ou réquisitionné, je ne sais pas trop, en Alsace, qui a été créé en Alsace pour accueillir les malades de l'épidémie.
Mais attends, mais c'était quoi les symptômes de...
Attends.
Ah, ok.
Donc, en fait, après l'épidémie, elle a eu plusieurs noms.
Okay.
Au début, les habitants qui ont...
La tectonique.
Qui ont vu l'épidémie... Trop drôle. Qui ont vu l'épidémie pour la première fois, ils ont appelé ça, alors moi j'ai pas l'accent allemand, mais c'est Tanzplage, la peste dansante.
La peste, oui.
La peste dansante, ok.
Tanzplage.
Tanzplage.
Ah, comme plague.
Comme plague, en allemand, ouais. En anglais.
D'accord.
Et sinon, la, ou la Tanzwut, la danse enragée, Tanzwut.
Il n'y a pas de tréma, c'est Tanzwut. Il n'y a pas de tréma sur le U.
Ben, je pense pas.
Ok, c'est Tanzwut.
Ah, après, moi, c'est dans ma prise de notes, j'ai peut-être oublié de mettre un tréma, mais j'en ai pas vu, je crois.
Tanzwut.
Okay. En gros, ça veut dire danse enragée.
Ok.
Et après, donc, il y a un médecin suisse qui s'appelle Paracels, qui, en fait, a appelé ça la choréomanie.
Incroyable.
La manie dansante ou sinon, enfin, ce qu'il appelait un phénomène d'hystérie collective. Ah. Retenez bien qu'il appelait ça un phénomène d'hystérie collective. Okay. Retenez bien le mot hystérie.
Oui, d'accord, parce que j'imagine que c'est... Oui, bon, ouais, bon. Vas-y. Ah. Oui.
Alors, retenez bien ce mot, s'il vous plaît. Donc, en fait, l'épidémie de Strasbourg, là, de 1518, c'est la mieux référencée. En fait, c'est la plus populaire parce que elle est quasiment. En fait, il y a quasiment toute l'historique de l'épidémie qui a été relatée. Enfin, okay. On a toutes les infos, tous les éléments. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le 14 juillet 1518, il y a une femme dans les rues de Strasbourg qui est rentrée dans une danse frénétique.
Ok.
Voilà.
N'importe quoi, je l'imagine en plein milieu des rues comme ça. Genre, ouh, je sais pas ce qui m'arrive. Elle commençait à faire la vague et le verre de terre.
Le moonwalk. Celle qui a inventé le moonwalk.
Tu sais, elle se bouche le nez et elle descend un peu en mode vague. Donc, pour revenir au médecin suisse Paracels, il a révélé que cette femme s'appelait Frau Trophäa.
Frau
Trophäa.
Dame Trophäa, donc.
Voilà, et qu'elle simulait cette manie dansante quand son mari la contrariait. Ah. Parce qu'elle était hystérique.
Elle se mettait à danser quand elle était énervée.
Mais comme nous, en fait, quand rien ne va plus, on va danser, quoi, pour
se défouler. Exactement.
Pour oublier, voilà. Quoi. Ouais. Incroyable. C'est incroyable. OK.
En soi, bon, bref, ça, c'est son... c'est, voilà. D'accord. C'est okay. Un médecin, hein, voilà, il faut l'écouter.
Oui, bien sûr.
Mais bon, et en fait, il n'en savait rien, parce qu'en plus, son nom, Frau Trophäa, c'est un peu absurde comme nom. Enfin, en gros, il n'y a rien qui prouve... On ne connaît pas l'identité de cette femme, quoi.
OK. Ouais.
Donc, elle danse, genre, toute la journée. Sa danse, elle est hyper rythmée. On dirait qu'elle a des convulsions, un peu.
Mais attends, mais il y a de la musique ou pas?
Non, elle danse toute seule, sans musique. C'est toujours le même rythme. Et du coup, comme elle a l'air d'avoir des convulsions, c'est hyper fatigant, en fait. À la fin de la journée, elle s'écroule.
La pauvre, en fait, elle est en train de faire une crise d'épilepsie. Et tout le monde, c'est là, elle danse.
Sauf que le lendemain, elle se réveille, elle recommence à danser.
Oh la vache.
Le troisième jour, elle redanse. Et il y a quelques personnes qui la rejoignent, en fait.
Qui ont pitié.
Et donc, l'épidémie est en train de se propager.
Oh là là.
Et donc, en fait, elle se propage tellement qu'on est à 30 danseurs fin juillet.
Mais quoi?
Une centaine au mois d'août et 400 en septembre.
Mais en fait, elle a fait le premier flash mob, quoi.
C'est clair.
Première free party.
Incroyable. Non mais attends, attends.
L'invention de la rave.
Bon. Ouais, mais non, mais c'est incroyable. Enfin, je trouve que c'est.
Non, c'est fou.
Non mais oui.
Ok. Bon, vas-y, continue.
Alors, donc pendant cette épidémie, enfin en fait pendant que les gens dansaient, ils souffraient en fait, ils appelaient à l'aide, ils avaient les pieds en sang.
J'imagine la scène, quoi.
En vrai, c'est horrible. Genre, enfin, vraiment, dans les articles que j'ai lus, on parle de visage crispé. Enfin, bon, c'est...
Ils sont en train de zouker et de pleurer en même temps, tu sais.
Le zouk triste.
La bamba triste.
La bamba triste.
La bamba triste.
D'où exactement. L'expression, la bamba triste.
Ouais.
Et du coup, en fait, ils étaient incapables de s'arrêter. Ils appelaient à l'aide, ça marche pas. Et en fait, il y a eu des morts, enfin, il y a eu beaucoup de morts du coup, mais pas directement à cause de l'épidémie, mais plutôt à cause de la fatigue, et parce qu'on était en plein mois d'août, donc il y a eu des crises cardiaques, de la fatigue, des AVC.
Mais attends, mais pourquoi personne ne prend une corde et les attache à un poteau?
Ouais, les arrête, non?
Attends.
Ok, pardon.
Donc, au pic de l'épidémie, c'était le mois d'août, là où il faisait le plus chaud, et on comptait à peu près 15 morts par jour.
Putain, mais c'est incroyable.
Voilà, sachant que genre en septembre ils étaient genre 400 et que du coup entre temps, enfin il y a eu des morts, donc c'est qu'il y a eu beaucoup plus de gens que ça qui.
Incroyable.
Bah, ça c'est la supposition que j'ai faite en fait.
Ouais. Ok.
Du coup, pour revenir aux premières victimes de l'épidémie, du coup le conseil. De Strasbourg appelle les meilleurs médecins pour qu'ils viennent voir ce qui se passe et qu'ils fassent leur diagnostic. Donc, ils ont assez vite écarté l'hypothèse du mauvais alignement des planètes.
Ouais, ok.
Oui, oui. Non, mais ça les vérifier quand même.
Non, mais ça paraissait pas.
C'est pas généralement, quand même, on l'écarte assez vite encore aujourd'hui.
Ouais. Mais on se demande toujours au début, toujours la première question, est-ce que c'est pas les planètes?
Oui, déjà.
Non, voilà, est-ce que c'est pas la Lune si j'ai mal dormi, tu vois, enfin,
bah, en vrai, on se demande vraiment ça.
Oui. En vrai, moi, je sais que ça peut avoir une influence, mais bon, le mauvais alignement des planètes, je suis pas assez calée. Mmh. Donc, en fait, après, ils ont conclu à un excès de sang chaud.
Quoi? Un excès de sang chaud?
J'avoue, j'ai pas compris.
Trop le sang chaud.
Le sang chaud. Et que le meilleur moyen de soigner du coup cette épidémie, c'est que les danseurs, ils s'arrêtent pas de danser.
Ah bon?
J'ai pas compris non plus.
Ah, mais peut-être un truc un peu à la. Tu sais, comme quand tu dois te détox. Enfin, tu vois, il faut pas qu'ils s'arrêtent de danser, sinon ça fait un choc. Trop rapide.
Ah, comme les alcooliques, ils ne faut pas les priver d'alcool.
Voilà. Comme les drogués, tu vois, tu peux pas te...
Les sevrer direct, quoi.
Voilà, le sevrage.
Non, tu meurs.
Oui, ça pourrait être violent, mais en fait, l'excès de sang chaud, j'ai pas compris exactement ce que c'était, mais c'était peut-être un truc du Moyen-Âge, quoi.
Il faut que petit à petit, en fait, ils abaissent le rythme de leur danse, tu vois, passer d'un breakdance à...
À une valse.
À une bossa nova, tu vois.
Ouais, exactement.
Un truc un peu... Et après, ils finissent avec le robot.
Exactement.
Okay.
Et après une danse lancinante de 5h du matin, quoi.
Ouais, voilà.
Ouais. Tout à fait n'importe quoi.
Alors, du coup, voilà. Et donc, ils demandent à ce qu'ils s'arrêtent pas de danser, quoi. Du coup, la ville, elle décide de libérer l'espace. Genre, elle ouvre une halle, elle privatise une halle pour que les gens aient plus d'espace pour danser parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont.
Ah, mais c'est vraiment la première rêve de l'histoire, en fait.
Non, mais on est d'accord que c'est un moine sous LSD qui a écrit ça. C'est pas possible, c'est comme la Bible, c'est pas vrai.
Je te jure que c'est vrai.
Non, mais moi j'en ai déjà entendu parler de ces épidémies de danse.
Ouais, moi aussi, mais je pensais que c'était.
Mais c'est ouf.
Ok, vas-y, continue. Donc, une pièce, enfin une salle.
Une halle, carrément, quoi. On loue les halles.
Un gymnase ouvert pour eux. Ouais.
Voilà, pour qu'en fait les danseurs ils soient jamais bloqués dans leur danse et restreints.
Oh, c'est magnifique, c'est beau ça.
En plus de ça, on leur fournit de la nourriture à boire pour pas qu'ils soient distraits et pour pas qu'ils soient jamais arrêtés dans leur danse.
Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse.
Sauf que, évidemment, il y a eu des abus, genre des gens qui faisaient semblant d'être atteints et de danser. C'est gratis. On a toujours eu.
Oh, c'est génial. Les mecs, genre, tu vois un clodo comme ça qui commence à danser.
Atroce.
C'est une chenille, mais ça prend pas.
La chenille.
Ça y est, on a perdu Marion, ça y est. À s'imaginer un mec au Moyen-Âge faire une chenille, c'est...
C'est terrible.
Ah, vas-y, continue.
Oui. J'aurais pas dû mettre ce passage sur la nourriture gratos.
Enchaîne.
Du coup, comme ils voient que ça avance pas, qu'il y a de plus en plus de cas, qu'il y a toujours autant de morts, et qu'en plus il y a des abus, il y a de la violence du coup qui découle de tout ça, ils décident d'interdire complètement aux gens de danser. Oh non. Sinon une amende.
Oh, mais putain. Non, mais attends, mais. Alors tout d'un coup, alors, genre une semaine avant, les mecs qui sont là, surtout vous arrêtez pas parce que sinon vous allez tous mourir. Et maintenant, c'est genre, non, il y en a qui ont abusé, alors maintenant, arrêtez-vous tous.
Mais en gros, ils mettent des amendes pour les gens qui abusent, quoi.
Ah, d'accord.
Qui font semblant de danser. Enfin, en gros, ah oui. En fait, c'était ouais. Une amende colossale et du coup, en gros.
Les gens prenaient pas le risque.
Voilà.
Ça, c'est qu'ils étaient vraiment atteints, quoi. Ouais.
Voilà. Et du coup, en fait, ils ont enfermé les gens qui dansaient.
Oh
et,
dans la halle.
Dans la halle. Et ensuite, oui, d'ailleurs, donc.
Bah, premier confinement.
Voilà, et ils en profitent au passage pour fermer les maisons closes et les établissements de jeu.
Oh, tiens donc.
Voilà.
Mais pourquoi? Quelle est la logique derrière?
Franchement, il n'y a aucun rapport. Genre, le vice, quoi.
Ils se sont dit, ouais, allez, vas-y. On va en profiter,
ben,
là.
Ils se sont dit, ouais, c'est sûrement, ça vient, c'est un truc de dépravé. Et donc, du coup, ils enferment les trucs de
lecture,
quoi. Ils ont dû avoir une prostituée dans le truc. C'est ils sont sûr. Dit, putain, ça, tu sais, ça se passe par le sexe oral.
C'est sûr.
Comme le coronavirus.
C'est ça. C'est l'utérus, en fait.
Ah mon dieu, l'hystérie.
Mais oui, bien sûr. Toujours.
On en vient toujours à ça.
Ouais.
Et donc en fait, donc ils sont pas enfermés dans la halle en fait, les danseurs atteints de l'épidémie, ils sont amenés dans le fameux couvent à Saverne, à côté de, enfin en Alsace.
Putain, les danseurs, elles ont dû être.
Alors attendez, parce que là je vais vous lire la phrase parce que j'ai trop ri.
Hystérique.
Oh, putain.
Alors, sur place, chacun des malades reçoit une petite croix et des chaussures rouges, bénies au nom de Saint-Guy.
La danse de Saint-Guy ?
Mais pourquoi des chaussures rouges ?
Ça vient là, l'expression, la danse de Saint-Guy ?
Qu'est-ce que c'est que cette expression ?
Vous connaissez pas l'expression ? C'est une expression québécoise.
Non ?
Avoir la danse de Saint-Guy.
Non,
c'est vrai. Putain, je suis trop contente de ça. C'est incroyable, ça vient de là.
Ok, d'accord.
Bah, certainement, franchement.
Mais pourquoi des chaussures rouges ?
Bonjour. Aucune idée.
C'est des claquettes.
Je sais pas, putain. Et du coup, c'est en fait, l'épidémie prend fin suite à ça. C'est trop bizarre. Genre, pour des petites chaussures rouges et une petite croix.
Oh non, mais n'importe quoi.
Manipulation, mensonge.
Et alors, mais attends, mais personne ne les a traités de sorcières à ces gens ?
Attends. Parce qu'en fait, il y avait 400 personnes quand même. Tu sais, genre, il ne peut pas y avoir 400 sorciers. Enfin, il y avait des hommes et des femmes, hein.
Oui, oui, mais bon.
Et c'est surtout qu'en fait, on sait même pas. Genre, il y a qu'un seul mec qui a dit que c'était Frau Trophéa, une femme qui avait commencé à danser. Genre, on ne sait pas. Enfin, tu sais, s'il faut, on a voulu mettre ça sur le dos d'une femme, et donc.
Ouais.
Certainement qu'il y a eu des suppositions comme quoi c'était une sorcière, mais dans les suppositions, les explications qui ont été données, genre 5 ans après. La seule explication qu'ils ont pu donner, mais en fait qui s'est avérée fausse, c'est qu'ils avaient été malades, empoisonnés par un champignon qui aurait infecté la farine de seigle.
Ah d'accord. oui, ça me parle.
Non, l'ergotisme.
Ok.
Et ce qui se passe quand t'es victime d'ergotisme, c'est que t'as des crises de convulsions,
ouais.
Des spasmes et des hallucinations qui ressemblent à des hallucinations du LSD.
Ok.
Mais en fait, l'hypothèse, elle tient pas parce que les convulsions de l'ergotisme, elles ressemblent pas du tout à la danse qui avait été décrite.
Mmh.
Et cet empoisonnement, en plus de ça, il diminue le flux sanguin, ce qui fait qu'ils auraient jamais pu danser pendant des heures comme ça. Donc, ils ont exité cette supposition. Et il y a alors un monsieur, donc John Waller, qui est un historien. Qui a écrit un bouquin en 2008.
Mmh.
Faudrait que je vous trouve le nom du bouquin. Tac, tac, tac. A Time to Dance, okay. Time to Die.
Oh, mon Dieu.
Quel enfer.
Génial. Oh là là.
Time to Dance. En plus, genre, la couverture est absolument atroce. Donc, en fait, c'est l'histoire extraordinaire de la peste de danse de 1518. Enfin, c'est
incroyable.
Donc, il écrit ça en 2008, pardon. Et en fait, lui, sa supposition, enfin pour la faire courte, parce que je pense que genre, c'est une bonne partie de son bouquin, en gros, les Alsaciens, et notamment les Strasbourgeois, venaient de passer par plusieurs crises, genre la peste, ils étaient au bout du Rolls.
Ouais.
Je suis pas sûre qu'il l'ait exactement dit comme ça. En gros, ils ont eu la grande peste, attends, je te le lis, la syphilis... Bon, ça a été la merde pendant un petit moment, genre juste avant cette épidémie de danse.
Ouais, donc celle-là, ça paraissait être une promenade de santé, quoi.
Voilà, et en gros, pour lui, la manie dansante, c'est genre les Strasbourgeois qui se sont complètement sentis abandonnés par Dieu. Bon, c'est un peu foireux, je trouve. Et en gros, ce serait une manifestation d'une détresse psychologique des Strasbourgeois.
D'accord.
Ouais, voilà. Ouais, ça, c'est quand même genre le truc d'un mec qui a écrit ça il y a 12 ans. Donc, c'est le plus récent. Enfin, après, peut-être qu'il y a eu d'autres trucs hein, depuis, mais j'avoue que j'ai fait ça en 1 heure et demie.
Ouais, mais c'est bravo, franchement.
Mais c'est incroyable, cette histoire, en fait. Mais le truc, c'est que, genre, j'ai l'impression que même aujourd'hui, genre, là, le coup de la détresse psychologique, parce que, en fait, ils se sont sentis abandonnés par Dieu les quelques années auparavant, parce qu'ils ont eu tellement de merde.
Ouais.
J'ai un peu de mal à me dire, ouais, c'est ça. Enfin bon, après.
Mais moi, déjà, j'ai du mal à me dire que c'est un vrai truc, en fait. Tu vois, ça paraît tellement fou.
Ouais.
Ouais.
Je trouve que c'est incroyable, quoi.
Oui, mais alors attendez, parce que je vais vous lire un autre truc que j'ai vu. Vraiment incroyable. Parce que ça, je l'ai pas repris. Tac, tac, tac. Alors attends. En fait, il y a eu des phénomènes similaires, genre, après, dont un en 1863.
Mm-hmm.
Ça, c'est la dernière manie dansante qui a été, qui a eu lieu.
Ouais.
Donc, c'était à Madagascar, en 1863. Et plus récemment, en Tanzanie, en 1962.
Ah oui.
Il y a eu une épidémie de fou rire incontrôlable.
Oh là là, putain.
Qui s'est propagée dans 14 écoles d'une même région. Et du coup, la fermeture de l'école pendant 6 mois.
Mais c'est putain, incroyable.
C'est voilà.
Mais. C'est incroyable. Mais alors, du coup, attends, est-ce que tu sais comment cette épidémie, elle s'est. Genre, est-ce que c'était genre contagieux
Mais c'est pas dit, mais je pense qu'en fait dans l'auteur dans le bouquin de John Waller on en saura un peu plus.
Ouais.
En fait non, puisque au début ils avaient l'air de dire que c'était genre ils ont été empoisonnés par la farine de seigle, je sais pas. Okay. Mais en même temps la façon dont ils ont été soignés c'est tout aussi chelou que la façon dont ça a été commencé, enfin ouais. Des petits feuilles rouges pour se soigner.
C'est juste que je me dis, s'ils ont été empoisonnés, en fait, le truc comme quoi ce serait parti d'une personne et ensuite ça s'est étendu, ça...
Ouais, c'est foireux aussi.
C'est foireux, quoi. Ça, c'est plus le principe d'une contagion plutôt ouais. qu'un empoisonnement général.
Ouais.
Et voilà, donc, ouais.
Mais par contre, tu disais que tout ce qui avait été écrit, ça a été écrit 5 ans plus tard. On n'a pas de témoignage.
Non, en fait, si, justement, il y a des témoignages sur le moment. Mais en fait, les seuls témoignages, c'est genre une meuf s'est mise à danser et genre 3 jours après, on a vu que des mecs avaient commencé à danser avec elle. Et puis en fait, ouais. Genre oui, il y avait des témoignages. Il y avait le fameux médecin Paracel qui aurait mieux fait de fermer sa gueule. Franchement, vous verriez sa tête, elle est trop drôle en plus. Voilà, enfin, en gros, je sais pas. Après, j'avoue, j'ai pas fait assez de recherches.
Mais j'ai envie de continuer là. C'est déjà trop bien, franchement.
Enfin, j'aime bien le fait que ça reste un peu mystique aussi, mais ça agace en même temps. Enfin, il y a un truc.
Ouais, c'est. Mais j'avais déjà entendu parler de cette histoire. Alors, ouais. Je sais plus, je crois, sur des sites genre mort insolite ou un truc insolite et
mais
tout.
Mais ça passait sur. C'était pas une vidéo brute, je crois. Moi, j'avais vu passer sur brute l'épidémie de danse.
Peut-être, ouais. Il y avait eu un documentaire, peut-être, qui avait été fait dessus.
Ouais, peut-être, je sais plus.
Attends,
mais c'est fou.
Mais ouais, bravo, franchement. Génial, c'était génial.
Bon, bah, trop bien.
Très bonne.
Merci à vous de m'avoir donné cet exercice. En fait, j'avais l'impression de revenir un peu au collège ou au lycée ouais. où tu dois faire des exposés. Et en fait, tu vas. Enfin, oui, à l'époque, peut-être que je trouvais ça un peu chiant. Mais en fait, j'ai senti ça parce que je m'y suis prise à la dernière minute aussi. Et au final, tu dis que tu t'y es pris trop tard et que t'as envie de continuer de lire des trucs et tout, mais...
Bah, tu peux continuer à lire des trucs dessus et, moi, je vais carrément aller chercher des trucs dessus parce que franchement,
c'est ouf.
Plein de questions.
J'en ai parlé à Valentine, elle m'a dit qu'il y avait une vidéo sur YouTube.
Il y a un documentaire, apparemment.
Un documentaire, ouais.
Ouais,
ben voilà, Debunked. Ouais.
Il y a un documentaire qui était passé sur France 3, visiblement, là, j'ai regardé.
Trop bien.
Et ouais, il y a un article du Monde aussi qui a écrit dessus et tout. Donc, bah écoute, très, très bon. Tu vois, en une heure et demie, c'est une histoire au poil.
Pas mal, hein.
Ça aurait été encore mieux si, genre, t'avais été relié à l'histoire. Genre, oui, en fait, c'est mon ancêtre.
Frau Trophéa,
en fait.
Mais j'ai aucune originalisation. Je crois que vous le sauriez.
Ouais.
J'aurais un accent allemand un peu meilleur, je crois, surtout.
Non. Oh, tu sais.
Mais voilà.
Non, bah,
en tout cas, mais c'était un vrai plaisir de faire ces recherches et de vous relater cette histoire incroyable.
Yes, c'était parfait. Bah, écoute, avec tout ça, on arrive à la fin de l'épisode.
Oui.
1h03. Une recommandation à faire pour les gens. Ça, enfin, c'est exercice habituel du podcast.
Je sais pas, en fait, toutes les recommandations qu'on faisait au début du confinement, genre regarder plein de films, lire plein de bouquins, pas forcément l'impression que je les... Enfin, si je regardais des films, ouais, mais...
Ouais, c'est chiant maintenant.
Voilà. Non, je sais pas. Alors moi, récemment, j'ai fait des vases en papier mâché. ça m'a occupé toute une après-midi. C'était chouette. Enfin, on peut faire des trucs assez jolis en papier mâché.
Trop bien.
Voilà, c'était rigolo. Voilà.
Bon, tu après, les as terminés?
Je les ai terminés, ils sont peints et tout. Ouais. Je vous les enverrai. Voilà, mais non, mais faites des gâteaux. C'est cool.
Bah oui, très bien. Grave.
Faites des gâteaux.
Ça occupe le temps, enfin, le temps de cuisiner. Et puis après, c'est un vrai plaisir. Le
temps de manger.
Gustatif. Hein. Ouais. Et puis on fait plaisir aux autres aussi.
Plaisir d'offrir.
Joie de recevoir. Voilà, joie de recevoir.
Et quelque chose qui a illuminé ta journée?
Ah, il y a plusieurs trucs. Ben, vraiment, alors faire cet exposé, c'était incroyable. avoir au téléphone, ressentir le stress de genre, je dois présenter un exposé devant des gens.
Ouais.
Ben, vraiment, j'ai une espèce de. Ouais. Je suis l'impression d'avoir 14 ans, quoi. Et apercevoir Marion deux minutes en bas de l'immeuble aussi pour lui donner mes parts de gâteau.
Bonsoir, tu reviens deux minutes avec toi.
Voilà. Ouais. Et vous?
Et nous, mais toi, Marion?
Moi,
faire la queue à la Biocop, non?
Oh, quel enfer. Je suis trop saoulée. Non, pas du tout, parce qu'en plus j'étais sous la pluie, c'était vraiment de la merde. Voilà. Non, ben, je sais pas, juste pas travailler en fait. Je veux me dire aujourd'hui, fuck. Voilà, juste pouf. Penser à autre chose, ça m'a fait du bien. Voilà, regarder le temps des ouvriers, les barricades, ça m'a. Ça m'a donné envie de faire des barricades. Je vais faire des barricades dans l'appart. Je vais rejouer la commune de Paris.
Abuse pas, tu
sais. Ça serait trop drôle.
Ça, si on a le droit de chanter.
Non.
Les Misérables.
Non. Ça, c'est.
Putain,
c'est
on n'en parle pas trop à Louis, ça va trop lui donner envie.
Merci. Quelle horreur. Voilà.
Ok.
Donc, oui, juste pas travailler en fait, ça illumine ma journée.
C'est pas mal, quand même. C'est pas mal, c'est
très bien.
Et moi, ben, j'ai commencé à lire un livre trop bien pour ma thèse, là.
Ok.
Qui est « Pourquoi on ne peut pas enseigner l'histoire américaine sans parler des Amérindiens ?»
C'est tout le sujet de ta thèse, hein.
C'est tout le sujet de ma thèse, en fait. Mais du coup, c'est un groupe de chercheurs qui ont fait... Ils ont chacun fait un chapitre et c'est à destination de profs... américains et pour leur donner des outils pour inclure les Amérindiens dans l'histoire. Genre, ils t'expliquent pourquoi tu peux pas parler de la guerre de sécession. Parler des Amérindiens dans la guerre de sécession, ça t'apprend plein de choses sur la guerre de sécession, alors que d'habitude, on croit juste que c'est les Blancs contre les Noirs. Ou les
trucs comme ça.
Et donc, c'est super intéressant. Et je suis très contente de lire ce livre. Et donc, j'ai hâte de le terminer pour en commencer un autre qui est trop bien aussi, qui est les mensonges que mon professeur d'histoire m'a raconté. Et en fait, c'est sur tout, genre les trucs que tu apprends à l'école et qui sont en fait erronés et qui ont pour but en fait
de te formater.
Ouais, de te formater, une espèce de nationalisme un peu. Voilà quoi.
Mais c'est, je crois que c'est un livre qui a eu un peu de succès aux États-Unis parce que
et qui a eu grave du succès aux États-Unis.
Et du coup, justement, moi j'avais entendu parler de ce livre justement quand j'étais aux États-Unis. J'avais raconté à Claire une anecdote. J'étais à Washington D.C. et en fait j'étais dans le métro et en face de moi il y avait un mec qui avait à peu près mon âge, donc à l'époque j'avais 21 ans. Et qui lisait ce livre. Et vraiment, il lisait ce livre avec tellement de conviction. Et genre, il était mais outré, quoi, de ce qu'il était en train de lire. Vraiment, il était genre, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans?
Ouais.
Et il marque. Et moi, ça m'a fait rire de voir le titre du bouquin. J'étais là, putain, c'est drôle comme titre. Et je pense qu'il a vu. Enfin, il m'a vu sourire. Il m'a dit, putain, mais vous étiez au courant, vous, de tous les bobards qu'on nous raconte et tout à l'école, machin.
J'étais là, alors.
Bah alors, moi, en fait, je suis pas américaine, mais oui, j'imagine bien, enfin...
Ouais.
J'imagine bien qu'on vous prend pour des jambons.
C'est ça. J'imagine bien que votre concept de l'histoire, enfin, l'enseignement de l'histoire au lycée ou même au collège américain, bon, déjà que chez nous, bon, il y a des trucs à redire, etc.
Ah oui, c'est clair.
On est bien d'accord là-dessus. Mais tu vois, enfin, j'étais là, ouais, j'ai une vague idée, mais ça m'avait vraiment donné envie de lire le livre. Et il était genre vraiment genre, tain, mais vous saviez que, alors je sais plus quelle anecdote il m'avait parlé, mais enfin bon, bref, des trucs genre tellement ancrés en fait dans l'inconscient collectif et tellement genre en mode bourrage de crâne de tout petit américain qui va à l'école qu'il était là genre mais que moi.
T'as le mec avec une deuxième naissance, quoi.
Ah, mais grave, mais franchement, je pense que.
C'est genre, mais c'est un peu Truman Show, je trouve. Enfin, ça doit être un peu cette sensation-là où tu vis dans un. T'as l'impression que t'as vécu dans le mensonge.
T'as menti, en fait, toute ta vie. Et ouais, en plus, c'est vrai que c'est des mensonges. Là, tu vois, l'histoire américaine, c'est un truc, genre, c'est vraiment. Ça touche à. Mais comme nous pour l'histoire française, ça touche quand même aussi à ton identité en tant que Français, genre à quoi tu t'identifies, etc. Et tout ça. Et aux États-Unis, ben, les livres, les manuels scolaires, ils s'appellent genre « Donnez-nous la liberté » ou des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est trop intéressant. Et là, ce livre-là, ben, du coup, je l'ai acheté quand j'étais aux États-Unis en septembre. Et je l'ai acheté au magasin du musée des Amérindiens. Je l'ai vu et j'étais là, oh putain! Et je l'ai pris direct. Parce que j'adore les magasins des musées. Je pense que c'est mes magasins préférés.
Ouais, mais c'est dommage parce que les livres sont toujours plus chers dans les musées que dans les librairies. Beaux. Quoi. Oui, mais que tu trouverais dans des librairies.
Ouais.
Mais du coup, à chaque fois, t'as envie de tout acheter dans les librairies de musées. Et en fait, c'est trop cher, quoi.
Ah, moi, je suis une pigeonne totale pour ça. J'achète tout, les chaussettes, des cartes postales.
Je comprends tellement.
Ah, les cartes postales, j'avoue, les cartes
postales. Les cartes postales, bien sûr. Ah, ouais,
quand j'ai été au musée, c'était auquel... Je crois que c'est le musée d'histoire américaine, du coup, à Washington. J'ai acheté les chaussettes avec Rosie de Riveteur dessus. J'ai acheté des livres, genre les livres de Chimamanda Ngozi Adichie. Ça, je les ai achetés au musée.
Ah, c'est là-bas que tu les as achetés ?
Non, ça, c'est au musée d'histoire et de culture afro-américaine. Mm-hmm. Mais dans chacun des musées, j'ai acheté des trucs. Et voilà. Et je me suis ruinée dans les musées.
Putain, mais tu m'étonnes. Mais oui, effectivement, c'est plus cher. Pour les bouquins, je pensais pas, parce qu'en général, il y a quand même un prix derrière.
Ben non, moi, j'avais constaté, je m'étais fait avoir, justement, quand j'étais à Prague, où j'avais été au musée Klimt, et du coup, j'étais...
Pareil, parce que c'était le musée, c'était des livres spéciaux de Klimt.
Alors, c'était pas le livre de l'expo Klimt, mais c'était des histoires d'histoire de l'art, et c'était des affiches, machin et tout. Et après, j'étais rentrée dans une librairie à Prague, j'avais vu le même bouquin, et genre 3 euros moins cher, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc, j'étais un peu d'accord. C'est pas ouf, mais j'étais là, genre, je me suis fait eu.
Bon. Ouais, c'est de base un peu cher, je trouve que tu sais. Ouais, enfin.
Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout.
C'est genre les bouquins d'histoire de l'art, c'est souvent 40 balles quoi.
Ouais, ouais.
Puis c'est des trucs que tu rouvres jamais après.
Ouais.
Oui, genre c'est pour mettre sur la table du salon pour faire un peu chic.
Pour faire joli.
Pour faire joli.
Exactement. Donc voilà, oui, bon, c'était ça ce qui avait illuminé ma journée.
Ouais. Mais ouais, j'ai trop envie de lire aussi.
Ben, il est là. Il est juste là.
Ma petite chute au nez, ça a l'air trop bien.
Ben, du coup, merci
Claire. In English.
In English, ben oui.
English, ouais.
Oui, oui.
Of course, obviously. Hein.
Obviously. Attends, we are too fluent.
Obviously, ouais. Obviously. merci Claire d'avoir accepté de participer à notre podcast une deuxième fois.
Et à vous.
Et
plaisir.
Et merci pour cette histoire fantastique.
Ah ouais, putain, j'en reviens pas. La danse de Saint-Guy. Cherchez sur internet l'expression la danse de Saint-Guy. Je vous jure, c'est. Voilà.
Est-ce que tu peux nous le refaire avec l'accent?
Non.
La danse de Saint-Guy.
La danse de Saint-Guy, là.
Danse de Saint-Guy. Bon, ouais, bon, allez, je regarderai tout à l'heure. Putain, je commence à taper danse, on me propose danse avec les stars.
Ah oui, bah, c'est différent. C'est un autre style.
C'est différent.
Peut-être. La danse de Saint-Guy.
C'est
une vraie expression.
Reste bien à couvert chez toi.
Ah oui.
Jusqu'à le 11. Hein.
Jusqu'à le 11.
Ouais. Jusqu'à le 11. Et. Et le premier dehors est fan de...
Oh putain, Eric Woerth.
Eric Woerth.
Parce que je l'ai vu cet après-midi.
Oh, mais ouf, mais il existe encore lui, putain.
Oh. Bah écoute, il avait pas l'air en forme, mais il était là.
Okay. Ah ouais, toujours là, toujours debout.
Toujours là.
Très bien.
Très bien, bah, faisons comme ça alors.
Bisous.
Je ne sors pas.
Salut.
Allez, bisous.
Ciao.
Ciao.
S'il vous plaît, de sucre parsemé.